Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Mercredi 3 avril, au programme des experts ce matin, Bruno Le Maire confirme qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Le débat agite la classe politique depuis quelques jours, y compris au sein de la majorité. Mais pourra-t-on vraiment y échapper? Et de quel impôt est-ce qu'on parle réellement? On va en débattre dans un instant. Le gouvernement avait-il été trop ambitieux en matière de réindustrialisation? L'objectif était d'augmenter la part de l'industrie dans le PIB jusqu'à 15%, mais un rapport qui vient d'être remis préconise de ramener cet objectif à 13% à cause du manque d'énergie décarbonée. Ça peut paraître étrange dans un pays qui a autant de réacteurs nucléaires. Et puis le financement de l'éducation doit-il être mieux contrôlé dans le secteur privé? Un rapport parlementaire pointe justement ce manque de contrôle. Est-ce vraiment un débat économique ou est-ce qu'il y a derrière tout ça un débat politique? On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Et comme chaque matin, la carte blanche de nos experts, chacun va défendre un sujet qu'il a choisi, il nous expliquera pourquoi et ce sera dans le dernier quart d'heure de l'émission. Vous le savez, vous pouvez participer au débat, nous envoyer vos commentaires, vos remarques @StephPedrazzi sur X, Twitter donc. Je me ferai un plaisir de le relayer auprès de nos invités. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Trois experts, deux pour l'instant, le troisième va arriver. Nathalie Janson, professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphane.
Isabelle Job-Bazir, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Et Sylvain Aurébi, président d'Orientis, va nous rejoindre dans quelques instants. On va commencer sans lui. Je sais pourtant qu'il était très très partant pour le premier sujet. On va parler de Bruno Le Maire, qui refuse de céder à la facilité en matière de hausse d'impôts. Dans le journal Les Échos, ce matin, il explique que 10% des contributeurs paie déjà les trois quarts de l'impôt sur le revenu et il confirme donc qu'il n'y aura pas de hausse. Le ministre de l'économie veut clore le débat. Soyons clairs, Nathalie Janson, est-ce qu'il va réellement clore le débat, sachant qu'il faut trouver 30 milliards d'euros d'économies sur 2 ans et que si on n'y arrive pas, il faudra forcément augmenter les recettes?
Là, je pense qu'il fait du wishful thinking, c'est-à-dire qu'en fait, il essaye de... Enfin, il veut rester dans ses bottes dans la mesure où il a effectivement le président en plus l'a mandaté pour qu'on dise qu'il n'y a pas de hausse d'impôts. Effectivement, la situation un peu compliquée dans laquelle se trouve le gouvernement, c'est que depuis le début, on n'a pas de réelle stratégie quant à savoir ce que doit faire l'État ou doit pas faire l'État. On voit très bien qu'en France, on a un problème de positionnement de ce que doit faire l'État.
On a plutôt tendance à vouloir beaucoup, à attendre beaucoup de
exactement.
L'État.
Exactement. Et donc, si on voulait vraiment aller vers une stratégie où, franchement, on va envisager des dépenses ou en tout cas un redéploiement de l'action publique, il faudrait se pencher sur, effectivement, les priorités d'action. Donc, vraiment faire un vrai travail de la mission de l'État. Or, c'est pas au programme. Donc, c'est là où, en fait, on a un petit peu de mal à croire quand même Bruno Le Maire parce qu'on se dit, bon, alors... Ça veut dire qu'il prolonge l'État tel qu'il est aujourd'hui, le gouvernement, avec ses actions diverses et variées. Bon, on a bien compris qu'il y avait la fin du quoi qu'il en coûte, même si parfois on a encore du mal à croire sur tous les points. Mais en tout cas, c'est le message. Et on se dit, oui, mais alors il va aller les chercher où, ces recettes supplémentaires, étant donné que la croissance, on n'a pas, visiblement, il n'y a pas de miracle à attendre du côté de la croissance. Donc là, effectivement, on ne peut pas se dire qu'il aura des recettes mystérieuses, miraculeuses, qui vont lui faciliter la tâche. Et donc, on se dit que lorsqu'il va regarder dans les dépenses, ben, on se demande où, puisqu'on est submergé par les injonctions contradictoires du gouvernement.
En tout cas, pour l'instant, la politique officielle, c'est de regarder la liste des dépenses et d'essayer de faire des coupes. On a l'impression, Isabelle, que c'est un peu le concours Lépine des mesures d'économie. Je reprends les mots de Clément Beaune. On a d'abord, évidemment, la nouvelle réforme qui s'annonce de l'assurance chômage, la question du jour de carence, l'Agirc-Arrco. Le gouvernement aimerait un petit peu piocher dans la caisse. Pour l'instant, ça, c'est la stratégie stratégie officielle. On va réduire les dépenses.
Alors, oui, enfin, de toute façon, ce que l'on voit et ce qui a été très bien dit par Nathalie, c'est que pour l'instant, voilà, on va plutôt faire raboter un peu partout. Hein. On cherche un peu à faire des économies. C'est vrai que non hausse d'impôts, c'est un marqueur du mandat d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il y est attaché et qu'ils vont éviter à tout prix, effectivement, d'avoir ces hausses d'impôts, même si on peut en avoir certaines cachées. Hein. S'il suffit que vous rogniez sur une niche fiscale, etc., pour que ça soit en fait une hausse d'impôts masquée. Mais l'idée, c'est quand même plutôt de raboter sans vraiment avoir de stratégie. Et j'aimerais attirer l'attention, c'est que pour l'instant on cherche ces 30 milliards d'économies en total sur 2 ans. C'est juste pour revenir dans les clous de la trajectoire budgétaire qu'on a décidé.
On commence pas à se désendetter.
Alors déjà non, mais c'est simplement on se dégage pas des marges de manœuvre. Ouais. Pour des enjeux majeurs que sont la lutte contre le réchauffement climatique, la décarbonation de l'économie, etc. Les investissements numériques, on va parler d'industrie, réindustrialisation, etc.
On va en parler, oui.
Donc, voilà, c'est simplement pour se remettre dans les clous sans se dégager des marges de manœuvre. Et effectivement, se dégager des marges de manœuvre, ça demande de revoir ses priorités et d'avoir une vraie stratégie budgétaire de long terme pour se dégager ces marges de manœuvre.
On accueille Sylvain Aurebi, président d'Orientis, qui a fini par nous rejoindre. Bonjour Sylvain.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous. Quand Bruno Le Maire dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, est-ce qu'il n'est pas un petit peu en train de jouer sur les mots, de respecter la parole présidentielle? Il suffit de regarder ce qu'a commandé le Premier ministre, Gabriel Attal. Il veut un rapport sur la taxation des rentes. On parle bien d'une autre forme d'impôt.
Alors, déjà, il suffit de regarder ce qu'a fait Bruno Le Maire depuis 7 ans. Pour se rendre compte qu'il n'est pas fan des hausses d'impôts et qu'il a toujours respecté la stabilité fiscale. Donc il me semble que ça va continuer. Je ne crois pas que ce soit dans l'ADN de ce gouvernement d'augmenter les impôts, donc je ne pense pas qu'il y aura de hausse d'impôts, ni visible ni caché.
Mais il ne le souhaite pas, mais est-ce que le gouvernement ne va pas être contraint, finalement, d'augmenter les recettes, donc les impôts
Mais c'est un peu énorme. Ben, c'est une attitude un peu paresseuse d'augmenter les impôts.
C'est ce que dit Bruno Le Maire ce matin.
Absolument. Et je trouve que c'est très paresseux et c'est pas vertueux. Et ça ne correspond pas à ce qu'a fait l'économie française depuis quelques années est dû principalement d'abord à la baisse des impôts et ensuite à la stabilité fiscale. Et je ne crois pas que ce soit bon pour l'économie aujourd'hui de repartir sur une hausse d'impôts. Vous parlez de Gabriel Attal et vous dites qu'il réfléchit à taxer les rentes. C'est pas comme ça que je le lis. J'entends qu'il prépare une mission. Attention, c'est comme les commissions hein, à l'époque. Ah oui. C'est une mission de la majorité.
Oui, c'est la majorité.
Pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Vous voyez, ça me rappelle un peu Coluche. Eh bien, ça, c'est de la câlinothérapie à l'intérieur de la majorité. Chaque tendance de la majorité va donner ses idées, et à la fin, on ne fera rien. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est juste une façon de ressouder sa majorité et de montrer aux oppositions que le gouvernement réfléchit à toutes les solutions, que le gouvernement agit contrairement aux oppositions. Enfin, moi, je crois que le message de Gabriel Attal sur les rentes est un message politique.
Alors, Isabelle. Je crois qu'il y a effectivement probablement un message politique, mais je crois qu'il y a une surprise négative dans le budget, à savoir la contribution exceptionnelle sur la rente des énergéticiens, qui n'a pas été à la hauteur des attentes, et c'est même, je crois, quasiment 10 fois moins que ce qui était attendu, et donc ça a fait défaut en termes de recettes, parce qu'en fait, la dérive budgétaire que l'on connaît, c'est pas un problème de dépenses. Les dépenses ont été plutôt bien tenues, enfin augmenté moins vite que le PIB. En revanche,
c'est que les recettes n'ont pas été à la hauteur.
Les recettes n'ont pas été à la hauteur. Alors même, mais je pense que ça a été une mauvaise anticipation. C'est-à-dire pendant quelques années, on a eu des recettes qui allaient plus vite que l'activité, que le PIB. On avait une élasticité supérieure à 1 des recettes. On s'était bien dit qu'on allait revenir à 1, mais on savait pas qu'on allait passer. Enfin, ils ont mal anticipé le fait qu'on allait passer par quelque chose où ça allait être où les recettes allaient aller moins vite que le PIB. C'est-à-dire que pour revenir un peu sur cette tendance de long terme. Et donc, c'est ce défaut et c'est peut-être cette rente-là, ils comprennent pas bien pourquoi il n'y a pas eu ces recettes n'ont pas été au rendez-vous. Donc je pense qu'ils vont probablement, une partie de la mission est aussi sur ce sujet.
Nathalie, vous êtes d'accord avec Sylvain qui parle de câlinothérapie quand on évoque ce rapport commandé par Gabriel Attal sur la taxation des rentes?
Bah, oui,
on sait réellement qu'il en sortira rien.
Je pense que de toute façon, ça va être, c'est effectivement un bon moyen de calmer. Enfin voilà, il a bien appris chez les meilleurs papes du management, peut-être, de faire comme si on écoutait sans écouter, c'est-à-dire que vous commandez un rapport. Ça, vous écoutez tout le monde, puis après, vous allez décider ce que vous voulez, mais au moins, vous aurez écouté ce qu'on vous dit. Donc, voilà, il a bien entendu qu'il fallait faire du bottom-up. C'est comme ça, on a l'impression qu'on a écouté les autres. Maintenant, est-ce qu'il va... En plus, je ne vois pas de quelle rente... Enfin, je veux dire, c'est quoi les rentes aujourd'hui? Alors, effectivement,
Ça, c'est la question, voilà, justement. Est-ce qu'il va taxer les revenus du capital? Oui. Donc, ça peut être, par exemple, un relèvement de la flat tax. Est-ce qu'il peut envisager de taxer davantage l'immobilier, en particulier les locations meublées saisonnières qui sont
ça serait pas une mauvaise idée.
Je ne suis pas certaine. Enfin, s'il veut vraiment, effectivement, ça serait assez facile et tout le monde serait relativement d'accord sur l'immobilier.
Enfin, sauf ceux qui louent leur logement. Bah,
justement, c'est ce que j'allais vous dire. Sauf que, en fait, le marché de l'immobilier est déjà tellement compliqué pour toutes les raisons qu'on sait, les normes, la protection des locataires, enfin, plein de mesures qui sont très compliquées, que ce serait une très mauvaise idée. Parce que ça chasserait encore plus, ça serait un effet repoussoir pour ceux qui voudraient y investir.
Bruno Le Maire répondait également au président délégué, pardon, du Conseil d'analyse économique, qui disait en début de semaine que l'hypermobilité des grandes fortunes avait été largement exagérée, puisque généralement, quand on parle de relever les impôts pour les plus riches, la phrase d'après, c'est de dire « mais ils vont s'enfuir à l'étranger ». Qu'est-ce qui s'est passé quand François Hollande a créé une tranche d'impôt à 75%, il y a eu quelques exodes, mais tout le monde n'est pas parti en masse.
Non, je crois pas qu'il y a eu des exodes en masse, mais il y a eu quand même. Il y a eu quand même des départs.
Après, il y a le prisme déformant des médias. On a parlé de ceux qui partaient, on n'a pas parlé de ceux qui restaient.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a aussi, une fois qu'on a arrêté, en fait, de taxer les plus riches, l'ISF, on a eu moins de départs. C'est aussi, on a pu le mesurer de cette manière-là. Mais moi, j'aimerais revenir quand même sur cette idée. Ne pas remonter les impôts, très bien. Mais c'est quoi la stratégie derrière? Il faut vraiment à ce moment-là se dire de prendre le problème à bras le corps. C'est vrai qu'on a un poids des prélèvements obligatoires qui est le plus élevé d'Europe, mais on a aussi le poids des dépenses qui est le plus élevé. C'est comment on s'attaque à ces dépenses, à l'efficacité, surtout en se posant la question de l'efficacité des dépenses, de manière à effectivement, comme je disais, revenir et se redonner des marges de manœuvre pour investir dans l'avenir. On en a besoin.
J'aimerais qu'on parle aussi de l'imposition des entreprises. Bruno Le Maire en parle. Il dit que, là encore, on a fait beaucoup de choses pour taxer les plus riches, donc les géants du numérique, les multinationales. Quid des PME et des industriels en France, Sylvain? Il y a un truc qui s'appelle la CVAE. Je sais que c'est le dada de Nicolas Dose.
Oui,
les impôts de production. Est-ce que vous pensez que ça va être remis en cause, la disparition de la CVAE en 2027?
Alors non, je répondrai d'abord sur la première question. Est-ce que ça a fait fuir des gens? Peut-être pas beaucoup. Mais en termes d'affichage, le fait d'avoir une imposition raisonnable rend une meilleure attractivité en France. De même, sur l'impôt des entreprises, on est aujourd'hui à un impôt sur les sociétés qui est à 25%, qui est dans la moyenne à peu près européenne, ce qui est normal et ce qui est bien. Les entreprises sont moins taxées que précédemment. Les impôts de production ont baissé. Alors, ils ne baissent pas suffisamment, puisque justement, on a reporté la baisse de la CVAE, entre autres. Et je le déplore, parce que je pense que la baisse de ces impôts de production a été un des facteurs qui ont permis à l'économie française d'être plus compétitive. Il faut continuer, parce que les entreprises, encore une fois, les impôts qu'elles ne payent pas, elles l'investissent. C'est vraiment de l'investissement qui est productif et qui crée de l'emploi. Et ce qui se passe depuis 7 ans, ça a commencé avec le CICE à l'époque de François Hollande, puis, enfin François Hollande et d'ailleurs Emmanuel Macron
qui était aux commandes.
Ça a commencé en 2015, ça s'est poursuivi par la suite. Et les bons résultats de l'économie française, parce qu'il faut quand même dire que depuis quelques années, l'économie française par rapport aux Européens a des bons résultats, et bien les bons résultats, ils sont dus à cette baisse d'impôts de production, et j'espère, et je le redis chaque fois que je suis ici, qu'il n'y aura pas d'interruption de cette baisse des impôts de production. Je pense que c'est majeur à la fois pour les entreprises françaises et pour l'attractivité du pays, d'arrêter de taxer les entreprises sur des profits qu'elles n'ont pas encore réalisés.
On va parler des entreprises dans un instant avec la réindustrialisation. D'abord, une dernière question qui s'adresse à tous. On sent une certaine fébrilité au sommet de l'État avec les agences de notation. Dans 15 jours, 3 semaines pratiquement, on aura la décision de Fitch et de Moody's sur la note de la France. Et fin mai, ce sera au tour de S&P. Vous pensez que, Nathalie, qu'on a un risque de dégradation ?
Oui, il est possible, puisque comme il n'y a pas de... Enfin, on ne voit pas d'embellie sur... les 30 milliards, on ne sait pas où elles sont.
Je vous pose la question différemment. Quand Bruno Le Maire s'exprime ce matin, est-ce qu'il pense surtout aux agences de notation ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait oui, parce que je pense que la stabilité, comme l'a bien expliqué Sylvain, contribue à la bonne réputation de la France, donc ça c'est un point à mettre au tableau positif de la France, même si effectivement on a du mal à voir comment on va réussir à trouver les 30 milliards, ce qui est le point négatif. Donc effectivement il essaye de jouer sur la stabilité, c'est-à-dire du pays, contre le fait que peut-être on a du mal à trouver de l'argent. Après, est-ce que c'est grave finalement si quelque chose se passe? Ça c'est un autre sujet. Mais il est certain que aujourd'hui, on voit bien que l'avis des agences de notation a quand même un impact modéré sur la demande de la dette souveraine au niveau international.
Vous êtes d'accord, Isabelle, c'est le marché qui fait le taux auquel on prête à la France et pas les agences de notation?
Alors, moi, j'aurais déjà tendance à dire que c'est fort probable qu'on ait une dégradation de la notation de la France.
Par S&P ?
Oui, enfin, par les agences de notation en
Fitch
général.
Fitch a bien dit hier qu'il n'y aurait pas de dégradation.
Oui, mais voilà. Ils étaient plus bas, je crois qu'ils étaient plus bas, me semble-t-il. Oui. Hein, ils étaient plus bas que les autres agences de notation. Donc moi, je pense que c'est assez probable, tout simplement parce qu'on est quand même le mauvais élève de la zone euro aujourd'hui. Hein. On est quand même parmi les pays qui font le plus fort déficit, avec ce dérapage qui était non anticipé. Et par ailleurs, si on regarde les pays qui ont à peu près les mêmes notations, qui ont la même notation que la France, ils n'ont pas forcément une situation budgétaire beaucoup plus saine. Donc il y a une forte probabilité, selon moi, peut-être que je me trompe.
Ça serait quoi le bulletin de notre dégradation annoncée pour la France, a touché le fond, mais creuse encore
Et peut-être avec assortie d'une perspective négative. Voilà. Donc ça veut dire en attendant de voir ce qui va être fait du côté du gouvernement.
Est-ce que ça a toujours le même impact?
Le fait est, on a déjà été dégradé, on n'en avait pas vu beaucoup les effets sur les marchés. On voit bien que quand le Trésor arrive sur le marché, eh bien, il y a un très fort appétit des investisseurs. Et effectivement, c'est finalement le marché qui fait le coût de la dette.
Oui, mais à quoi servirait une dégradation? Que signifierait une dégradation de la note de la France? Ça signifierait que la France a un risque de faire défaut sur sa dette, ce qui est absurde. Elle n'a aucun risque. C'est-à-dire que la France n'a jamais fait défaut, ne fera jamais défaut. Et donc, dégrader la note, c'est quoi? C'est taper sur les doigts d'un mauvais élève?
C'est un signal.
Lui dire, fais mieux.
C'est un signal.
Que la dette française s'arrache et qu'il y a des multiples, je ne sais pas combien de fois elle est achetée levée de France Trésor. Ça n'a pas de sens. Donc je dis qu'il n'y en aura pas. Je dis qu'elle ne servirait à rien et donc que les agences n'ont aucun intérêt à aller disrupter ce marché, à aller instiller du doute, alors que déjà on se retrouve avec une BCE qui a des taux très élevés, qui gêne un peu tout le monde. Aller dégrader la France aujourd'hui serait un très mauvais signal pour l'économie européenne et pas pour l'économie française, qui n'en souffrira pas parce qu'elle n'en a jamais souffert, en fait.
Nathalie.
Oui, mais à l'inverse, juste à l'inverse, on va dire à ce moment-là, mais pourquoi les agences de notation protègent la France? Il faut transpariser ces notes. Il y a un certain nombre de critères et de paramètres. Si la France ne remplit pas ses critères et ses paramètres, eh bien, elle est soumise à la même loi que les autres, avec une dégradation à la clé.
Les agences de notation de 2008.
On voit bien que c'est un aiguillon, parce qu'on a eu un peu un effet de panique du gouvernement, il peut y avoir un effet d'aiguillon pour le gouvernement.
Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les agences de notation, quand on voit les niveaux de dette? J'aimerais qu'on parle rapidement de la dette américaine. Elle augmente de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours. Pour autant, les agences de notation ne sont pas en train de frapper à la porte.
Non. Alors ça, c'est un sujet effectivement qui... les journaux financiers regorgent d'articles sur effectivement la dynamique de la dette américaine qui effectivement avec... vous avez encore eu Bloomberg qui est arrivé avec ses 1 million de projections. En fait, ils font tourner en boucle des modèles en changeant en permanence les variables et on peut arriver à des niveaux de dette de 140% d'ici 10 ans. C'est les projections à 10 ans. Et effectivement, on se demande... And so what? Qu'est-ce qui va bien pouvoir se produire si jamais ils vont dans cette direction?
Alors, il paraît que politiquement, ça commence à inquiéter aux États-Unis.
En effet, ça inquiète. Alors, c'est vrai qu'on a, en même temps, on se dit, étant donné qu'on a un Japon qui est depuis plus de 10 ans à 260%, on se dit, bah, effectivement, après tout, mais c'est le Japon, et on se dit, est-ce qu'on a envie d'être le Japon? Bon, les États-Unis n'ont pas forcément envie d'être le Japon, et ils ne le sont pas non plus dans leurs caractéristiques. C'est-à-dire qu'effectivement, si le Japon est dans cet état, c'est aussi dû à une démographie, à un taux d'épargne extrêmement élevé qui est l'opposé des États-Unis. Ça, on peut, c'est très clair. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas du tout des épargnants au sens japonais du terme. Ils aiment le risque, ils vont vers le risque. Alors effectivement, après, est-ce que à cause de cette dynamique de la dette, est-ce que les États-Unis vont perdre ce statut de référence de titres sans risque au niveau international? En fait, c'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut le remplacer? Eh bien, pour le moment, j'ai personne. Bien l'impression que non.
Et on parlera de la Chine tout à l'heure, voilà, parce que avec Isabelle.
Exactement. Les pays asiatiques n'y sont pas. Nous, en Europe, on n'a pas de marché unique de la dette publique, donc on n'y est pas. Donc, effectivement, on peut se dire que finalement, ils ont de très, très beaux jours devant eux, puisqu'il n'y a personne pour les remplacer. Et tant qu'ils auront cette dynamique de croissance qu'ils ont, comment vous voulez le remplacer? Ben non, on ne le remplacera pas.
Sylvain, oui. L'œil qui brille, parce qu'évidemment, on parle du Japon et lui, il vend du thé. Alors,
ensemble. C'est pas beaucoup au Japon, justement.
Nous en vendons en France. Isabelle, sur la dette.
Oui, privilège exorbitant du dollar, donc capacité à se financer très, très, très facilement, un vrai appétit pour cet actif sans risque de référence qui n'a pas d'alternative à ce jour. Et puis, je rajouterais le fait que vous avez un acheteur en dernier ressort de dette publique américaine qui s'appelle la Fed. Et on l'a vu au cours de ces dernières années, comme ça a été le cas de la BCE. Donc ça veut dire qu'un État qui émet dans sa propre monnaie quelque part, on se dit qu'il y a peu de chances qu'il fasse défaut, puisqu'il peut toujours faire marcher la planche à billets pour acheter sa dette.
Mais je pense que c'est la même chose en France. En fait, vous parliez de panique du gouvernement tout à l'heure.
J'ai parlé de fébrilité.
Alors, disons de fébrilité, mais certains dans les médias parlent de panique également. Et en fait, la fébrilité, elle est due, encore une fois, à un facteur politique. C'est qu'on a des élections européennes le 9 juin et qu'une dégradation avant le 9 juin nuirait certainement à la majorité présidentielle pour les élections européennes. Si les agences se déterminaient le 10 juin, je pense que la fébrilité serait bien moindre.
Ouais. En même temps, on a signé en France un règlement de copropriété avec le reste des pays membres de la zone euro sur notre discipline budgétaire, et force est de constater qu'on n'est pas très discipliné depuis de très nombreuses...
C'est joli le règlement de copropriété.
Voilà.
Le voisin qui fait du bruit, on est le voisin qui ne paye pas ses charges.
Quand on regarde l'Italie, on peut se consoler, quoi. L'Italie
a dégagé, dégagé pendant très longtemps des excédents primaires, hors intérêt.
On marque une pause. On a pris du retard, mais je crois que ça fait partie de l'ADN de cette émission. Dans un instant, on va parler réindustrialisation. J'aimerais bien qu'on dise quelques mots du financement de l'éducation, et puis ce sera la carte blanche de nos trois invités. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Retour sur le plateau des experts avec toujours nos trois invités, Isabelle Job-Bazzi, Crédit Agricole SA, Nathalie Janson, la Neoma Business School, et Sylvain Aurébi, qui est arrivé en retard, on va le dire. Et ça, vous allez traîner avec vous, Sylvain.
Il va être
Fébrilité, moi, l'agence de notation va me dégrader.
Ça note va être dégradé.
Président d'Orientis, Sylvain qui m'a envoyé un message en disant ne commencez pas sans moi parce que je voulais absolument parler des impôts. On sent quand même que le sujet intéresse. Allez, rapidement, on va parler de la réindustrialisation. On savait que le gouvernement a pour objectif d'augmenter le poids de l'industrie dans notre PIB jusqu'à 15% contre 10 actuellement. Eh bien, un rapport préconise de s'arrêter à 13%. Pourquoi ? À cause notamment du manque d'énergie décarbonée. Sylvain, c'est pas un peu bizarre dans un pays qui a autant de réacteurs nucléaires de manquer d'énergie décarbonée ?
Bon, alors, encore une fois, c'est un rapport. Je ne sais pas comment, par qui il a été fait et ce qu'il raconte exactement, puisque je ne l'ai pas lu.
Il y a encore un autre rapport après, hein, c'est la matinée dernière.
Ah, bien, c'est une bonne nouvelle, voilà, nous voilà rassurés. Non, on manque. Alors, ce que j'ai lu rapidement dans les articles relatifs, c'est qu'il manque de l'énergie décarbonée. Bon, alors, je ne sais pas comment ça se fait, effectivement. Et il manque de la main-d'œuvre. Je ne sais pas non plus comment ça se fait, parce qu'on a quand même une main-d'œuvre. Alors, elle n'est peut-être pas assez qualifiée. Et il manque de l'argent, puisqu'il faudrait, si j'ai bien compris, 200 milliards sur les 10 prochaines années. Mais ce que dit le rapport, c'est que les milliards, on les a, puisqu'il y a 6 000 milliards d'épargne des Français, et qu'il faudrait la flécher. Une fois, on ne sait pas flécher l'épargne. Hein. Ça fait depuis que je parle d'économie.
C'est le serpent de mer.
Voilà, j'entends parler de flécher les économies des Français vers l'industrie, vers la décarbonation, vers des tas de choses, et on ne sait pas le faire. Pourtant, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de baisser les impôts. Vous voyez, on parlait de hausse d'impôts tout à l'heure. Il suffit de l'incitation fiscale pour faire venir ces 200 milliards. C'est quand même pas grand-chose en rapport des 6 000 milliards qui sont mis de côté et qui continuent à être mis de côté mois après mois, année après année. Donc je pense qu'on a la capacité à le faire. Alors qu'on passe de 10 à 15 % de 10 à 13 %, j'avoue que je ne suis pas capable. Peut-être que Isabelle et Nathalie vous diront qu'on peut arriver à 12,6, mais je pense que l'idée reste quand même qu'on réindustrialise la France, qu'on se fixe 15 %, c'est peut-être ambitieux, mais qu'on se fixe 13, pourquoi pas. Le fait simplement, c'est qu'il faudrait qu'on prenne la route. C'est-à-dire que c'est le premier pas qui coûte, hein, avant d'aller vers ces 15%. Il faut qu'on prenne la route, qu'on ait l'argent, et qu'on flèche cet argent vers l'industrie. Et puis, je pense que la France a la capacité à faire ça. Si on décide de le faire et si on a une feuille de route cohérente.
C'est pas uniquement une question de souveraineté. Je me tourne vers notre économiste, mais sauf erreur de ma part, hein, je parle sous votre contrôle. Mais réindustrialiser la France, c'est indispensable pour redresser la balance commerciale.
Alors
là, c'est plus redresser. Hein,
Oui, non, c'est de retrouver au moins une balance commerciale équilibrée, à tout le moins. Mais j'aimerais revenir sur ce qui a été dit. En fait, réindustrialiser, là on décrète qu'on veut réindustrialiser la France. Mais c'est pas si facile que ça, il y a un certain nombre d'obstacles à l'arrivée. Premier obstacle, si vous voulez faire une usine ou construire une usine en France...
Le millefeuille administratif.
Bon, il y a déjà, le film millefeuille, mais déjà il faut trouver un terrain. Il faut le purger de tous les recours, et ça vous prend un temps infini. Après, vous faites face effectivement à ce millefeuille administratif. Ensuite, une fois que vous démarrez votre activité, enfin il faut construire l'usine, une fois que vous démarrez votre activité, il faut effectivement trouver de la main-d'œuvre compétente, mais aussi trouver son écosystème de fournisseurs. Et quelquefois, enfin, on voit bien qu'il y a des endroits où on a créé ces écosystèmes et où ça marche bien. Là, on n'a pas cet écosystème, c'est un petit peu plus compliqué, sachant qu'on a fait partir un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de compétences du fait de ces désindustrialisations que l'on a connues. Vous rajoutez effectivement le coût de l'énergie. Alors, même si en France, il est plus bas qu'ailleurs en Europe, mais en termes de comparaison au niveau international par rapport aux États-Unis par exemple, on a encore des coûts de l'énergie plus élevés, et ça renvoie aussi à la compétitivité relative et la question des impôts de production. Enfin, vous voyez que vous avez un tas d'obstacles à l'arrivée qui font que, ben, même si on le décrète, c'est beaucoup plus compliqué que simplement de dire qu'on va le faire.
Nathalie, ça a quand même changé l'image de l'industrie. J'étais au salon Global Industrie la semaine dernière. Quand même, on a progressé. Il y a quelques années, on avait des fraiseuses. Il y a des écrans, des robots.
Ah oui, bien sûr, l'industrie est hyper innovante, mais il faut attirer. Il faut attirer aussi.
Oui, mais je veux dire, quand on a l'image de Germinal, ça n'attire pas forcément les talents.
Complètement.
Une industrie moderne avec des écrans, des claviers, où on parle de connectivité, d'intelligence artificielle, j'imagine que ça attire quand même des vocations.
Il faut aussi que ça se traduise quand même dans l'appétence au niveau des études. Et vous savez que les études scientifiques, elles ne sont pas non plus portées par elles n'ont pas d'une grande attractivité par rapport au cursus des études. élèves aujourd'hui. Donc il y a quand même une inadéquation entre ce que les élèves ont envie de faire et en fait les besoins qu'on a. Ça, c'est un peu dommage.
72% des élèves de première et terminale ont une bonne image de l'industrie, mais moins de la moitié envisagerait de choisir un métier dans l'industrie. C'est un sondage OpinionWay.
Oui, c'est complètement paradoxal. Et parce qu'effectivement, je pense qu'il y a toujours une dynamique des carrières qu'on pense un peu poussiéreuse. Quand vous parlez à des jeunes d'avoir une activité, ils pensent tout de suite que ce qui est bien, c'est la start-up.
Ils veulent être influenceurs.
Et donc ça, c'est effectivement un sacré. C'est un problème au niveau des vocations, mais ça, c'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est de pouvoir démarrer son activité. Et je pense que là, pour le coup, l'histoire de la CVAE a un impact. C'est-à-dire que moins on aura des impôts de production, et plus ce sera quand même facile pour quelqu'un de démarrer une activité.
Oui, et puis la stabilité fiscale, elle a effectivement aussi un élément essentiel.
Et puis ce millefeuille administratif qui est très large, dont on parle souvent ici autour de la simplification, qui est un sujet que je connais bien. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire les choses en France. C'est long. On attend beaucoup d'autorisations. On attend des autorisations pendant des mois, pendant des années. Il y a des recours constamment. C'est compliqué. Même les dépôts de brevets. Tout ça est long, coûteux, compliqué. Et il faut impérativement. Et Bruno Le Maire a décidé de s'y attaquer. J'espère qu'il va y arriver parce que ça fait 30 ans qu'on s'y attaque sans beaucoup de résultats. Il faut limiter cette complexité qui coûte 60 milliards par an aux entreprises. La complexité administrative, c'est 60 milliards de coûts sur le dos des entreprises. C'est donc, on part avec un sac on court le marathon avec un sac de cailloux.
Ouais, 60 milliards.
C'est lourd. 60 milliards par an. C'est considérable. Alors qu'en Allemagne, il est bien moindre et la compétitivité française, elle viendra aussi de cette simplification.
Et sur la question du financement, puisque ça a été abordé, les 200 milliards, je dis que s'il y a un projet et que ce projet, il est rentable, compétitif, profitable, etc. Ce projet, il sera financé par les banques. Oui. Et les banques, le fait est, du coup, de croire qu'on va flécher et que ça... le but, c'est de flécher l'épargne. Non, l'épargne, elle est aussi intermédiée par les banques. S'il y a des projets, et comme je disais, si les projets sont rentables, il n'y a aucune raison que les banques ne viennent pas les financer et utilisent justement cette capacité de transformation de cette épargne de court terme en investissement à long terme. Qui est le travail d'une banque.
On va passer au sujet suivant. Je vous donne quelques réactions. J'avais complètement oublié de regarder. Bruno Le Maire joue sur les mots, nous disent les amis européens sur X. L'État baissera ses interventions tout en captant autant de richesses des citoyens. Ouais, donc il faut réduire la dépense. C'est ce qu'on nous dit. Sur l'éducation, envoyez-nous également vos commentaires. On va en parler. Un autre rapport parlementaire cette fois-ci pointe le manque de contrôle du financement de l'enseignement privé. Le premier constat, Nathalie, c'est que personne ne connaît avec précision le montant qui est versé aux écoles privées. On a une estimation entre 12 et 13 milliards d'euros. Vous allez me dire, on n'est plus à un milliard près.
Oui, bon, je pense que honnêtement, ils viennent vraiment jeter des doutes sur une question qui, je pense, pour un peu la connaître, ils auraient pu l'éviter. Enfin, franchement, l'intérêt d'avoir un secteur privé comme on l'a en France, des écoles sous contrat, c'est justement d'apporter une richesse en fait dans les modèles proposés au niveau des écoles. Et elles sont source en fait de diversité. Alors évidemment, je vais me faire taper dessus, on va me dire la diversité sociale, c'est un fait. Est-ce que c'est parce qu'elles ne veulent pas nécessairement de personnes qui ont des revenus plus faibles? Je dirais pas du tout forcément. C'est parce qu'il y a de l'auto-sélection. C'est un principe qu'on connaît beaucoup. C'est-à-dire que des familles qui pourraient être tentées par l'inscription dans des écoles privées ne le font pas forcément parce qu'elles se disent qu'elles ne pourraient pas le faire pour des questions de financières. Or, il faut savoir qu'effectivement, les écoles privées sous contrat peuvent accepter d'avoir des familles qui contribuent peu. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit la majorité, mais elles ont des modèles qui permettent aussi de l'intégrer. Il faut aussi savoir qu'effectivement, elles gèrent leur structure avec beaucoup de conservatisme, parce que de toute façon, elles tiennent à la préservation du modèle. Et donc, elles ne comptent ni sur une augmentation, ni sur une... Elles savent très bien qu'elles ne sont pas dans un modèle où l'État va contribuer davantage pour les aider. Mais par contre, taper sur leur modèle en disant qu'on ne sait pas ce qu'elles transforment, enfin, quelle est leur contribution, je pense que vraiment... c'est se priver de l'apport de l'école privée par rapport au plus qu'elle apporte en termes de pédagogique, et donc au niveau des élèves qu'elle forme, et aussi au niveau de modèles de pédagogique qu'elles peuvent inspirer, et notamment qui peuvent être pris par d'autres enseignants qui vont après irriguer le système public. Parce que de toute façon, les enseignants du privé ne sont pas des enseignants recrutés dans le privé, c'est des enseignants du public. Donc je pense que c'était vraiment... un faux procès que d'aller regarder du côté des écoles privées.
Sur le financement de l'éducation, Isabelle, un invité nous disait hier matin, ça n'intéresse pas les gouvernements ou l'éducation parce que un élève en primaire, en secondaire, ça ne vote pas.
Ah oui, mais il finira par voter un jour. Donc.
Oui.
Alors c'est vrai que c'est pas sur le c'est pas le temps politique.
Exactement.
Certes, mais j'aimerais. Enfin, moi, je connais assez mal le sujet. Mais c'est vrai que s'il y a financement public, je pense qu'on impose un certain nombre de choses en termes de mixité sociale me semblerait assez logique. Et que s'il y a des bons résultats, oui, certes, peut-être qu'il y a des questions. Peut-être on peut soulever les questions de mixité sociale, mais peut-être pas que. Et effectivement, il peut y avoir des expérimentations du privé qui peuvent être inspirantes pour le public, parce qu'en fait on a quand même une école publique qui va mal, donc c'est peut-être aussi cacher l'arbre avec la forêt, c'est de se dire finalement, on essaie de porter le regard sur le privé, ça permet d'éluder la question du dysfonctionnement de notre école publique.
Au-delà de la question philosophique, publique ou privé, chacun peut avoir son opinion. À partir du moment où on met 9, 10, 12 milliards d'euros sur la table, il faut qu'il y ait un contrôle de ce qui est fait
entre
avec cet
12
argent.
Et 13.
Entre 12 et 13, bon, on disait 9, j'ai lu 9 il y a quelques temps. Entre 12 et 13, il faut vérifier à minima de ce qui est fait de cet argent, s'il est utilisé correctement, si les programmes sont respectés à l'intérieur des écoles.
Le taux de réussite, c'est un marqueur, il n'y a pas besoin d'aller faire autre chose. Quand vous voyez le taux de réussite.
Non, c'est pas que le taux de réussite, il faut que ce soit fait dans les règles de la République. Et donc, on l'a vu dans certaines écoles qui ont été fermées récemment, le lycée Averroès, typiquement, ils ne respectaient pas le contrat. Donc il y a un contrat avec ces écoles, elles doivent le respecter.
Justement, c'est qu'il y a des contrôles.
Bien sûr,
c'est pour ça que c'est, en plus, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de contrôle.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrôle. Je dis que quand on met 12 milliards sur la table, le minimum, c'est de contrôler que ces 12 milliards soient bien utilisés. Je ne dis pas qu'ils ne sont mal utilisés aujourd'hui, loin de là. Mais il faut qu'il y ait des contrôles. Et c'est absolument naturel. Rien de plus, sans jugement sur l'école privée ou l'école publique.
Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle du tout. Or, c'est pas vrai. Il y a des contrôles. Ils sont alors. Effectivement, il n'y a peut-être pas des contrôles sur pièce, mais je dirais qu'il y a plein d'autres endroits où c'est le cas aussi. Mais les contrôles, ils sont là. Et ce n'est pas comme s'ils faisaient ce qu'ils voulaient avec cet argent.
En tout cas, on ne voit pas beaucoup de sanctions. Donc, c'est soit ils sont très vertueux, soit ils ne sont pas assez contrôlés.
Chaque année, il y a un conseil annuel où, en fait, il y a des établissements qui perdent leur accréditation par l'État.
Leur agrément.
Oui, leur agrément. Et des nouvelles écoles qui sont agréées. Donc, il y a chaque année une commission, ça c'est sûr.
55 mesures ont été proposées. Contrôle financier plus systématique, une autre répartition des moyens, une révision des contrats. Voilà, entre autres, les mesures qui ont été proposées. On entre dans le dernier quart d'heure de cette émission, la carte blanche. Vous êtes venus chacun avec un sujet que vous souhaitiez mettre en avant. On va parler des taux de la Fed avec vous, Nathalie. Elle va baisser ses taux ou pas lors de la prochaine réunion ?
C'est justement la fameuse question
à 10 000 $.
Voilà, exactement. Puisque on voit bien que cette question qui déjà animait tout le monde l'année dernière, on arrivé à la fin de l'année et ça a été repoussé. À la fin de l'année, je me rappelle, sur ce plateau, je disais que 80% des experts sur ce qu'on appelle les Fed Watchers donnaient la baisse des taux pour mars. Eh bien, que nenni, il n'y a rien eu du tout.
Mais en fin d'année, on attendait 6 baisses de taux aux États-Unis.
Exactement, alors que
2024,
là, on est déjà que sur 3. Voire 2.
Les dot plots, c'était limite 2.
Exactement. Et en fait, on s'aperçoit que plus le temps passe, plus les indicateurs indicateurs qui reviennent des États-Unis sont toujours aussi bons. C'est-à-dire qu'en fait, le marché de l'emploi se porte plutôt bien, l'industrie a encore donné des chiffres plutôt bons. Donc en fait, on se dit, alors du coup, est-ce que franchement, il faut baisser les taux? Parce que je vous rappelle qu'on baisse pas les taux parce qu'on les a montés avant. Hein. C'est pas parce qu'on les a montés qu'il faut forcément les baisser, mais qu'a priori, on cherche ce fameux graal du taux naturel duquel on s'approcherait, qui combine en fait le plein emploi de l'économie avec pas d'inflation. Et donc, comme en ce moment, on revient dans un sillon qui est une inflation effectivement qui pourrait peut-être persister, mais comme qui est pas à 20%. Enfin, je veux dire, on peut regarder l'Argentine si on veut vraiment s'inquiéter de ce qu'est l'inflation. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas de la Fed. Et comme on est toujours dans une sorte de plein emploi, on se dit, effectivement, peut-être que finalement, le taux naturel vers lequel on se dirige est plus élevé que celui qu'on ne pensait initialement. Donc, en effet, aujourd'hui, on se pose vraiment la question de savoir si les taux vont vraiment être ces trois baisses de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Et on se dit de plus en plus que ça n'arrivera pas forcément et que c'est un discours de Powell pour dire que finalement, il maintient quand même en prévision, mais que dans les faits, il ne le fera peut-être pas si l'économie va bien. Parce qu'effectivement, pourquoi aller changer quelque chose qui fonctionne? Il n'y a pas d'urgence à aller baisser les taux.
Rapide réaction, Isabelle.
C'est l'état du débat aujourd'hui. Hein. C'est vrai que les marchés avaient été très vite en besogne en se disant, elle a monté très vite ses taux d'intérêt, elle va redescendre aussi vite et de manière assez précoce. Oui, tout le monde est en train de réviser les marchés les premiers en se disant ils ont repoussé. Donc c'est juin maintenant qui est un peu le mois. Oui. Le mois.
En tout cas, la BCE est très attendue pour la réunion.
Voilà,
et
le mois de juin. Le mois de juin, ça devrait être à la fois la question se pose pour la Réserve fédérale américaine, mais aussi pour la BCE.
Surtout pour la BCE.
Et la BCE pourrait dégainer avant la réserve.
Il serait temps qu'elle dégaine parce qu'on n'a pas du tout, malheureusement,
les mêmes conditions
économiques que les États-Unis. Et nous, on souffre de cette hausse des taux. Les entreprises françaises, européennes, souffrent de cette hausse des taux et bénéficient pas du tout de la croissance à l'américaine. Ouais. Donc il faut absolument que la BCE baisse ses taux rapidement. Ouais. Et encore une fois, quand on a une inflation à 6-7%, qu'on remonte des taux à 4%, c'est une chose. Quand l'inflation retombe à 2,5% aujourd'hui et qu'elle sera à 2 à la fin de l'année, des taux à 4 et au-dessus, c'est pas supportable. Ouais. Donc il faut impérativement, la Fed c'est une chose, les Américains gèrent leur truc, la BCE doit, d'abord elle a monté les taux trop haut selon moi, et au mauvais moment, et la BCE doit impérativement, lors de sa prochaine réunion, envoyer un signal et baisser les taux d'au moins 25 points.
Voilà, c'est Lagarde qui nous écoute.
Je pense qu'on est tous à peu près, on est d'accord sur le sujet, avec des conditions économiques qui ne sont pas du tout les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. En revanche, je dirais juste, sur la réserve fédérale, la politique monétaire, elle doit regarder à moyen et long terme, terme. Donc, revenir vers une espèce de taux neutre, naturel, etc. C'est peut-être, et moi je pense que la Fed fera un geste, je ne sais pas si ça sera deux ou trois baisses de taux, parce que l'idée c'est quand même de revenir sur une politique monétaire qui est ni accommodante, ni restrictive, et revenir.
Et ce sera assez rapide puisqu'il y a les élections en fin d'année et que traditionnellement la Fed n'intervient pas.
Et après, il y a peut-être une question un peu politique.
Oui, sauf qu'effectivement, là ils ont révisé les taux longs. En fait, on est plus proche du 3,5 qu'avant.
La carte blanche d'Isabelle Djabbazir, la situation économique de la Chine, elle inquiète tout le monde. C'est grave, docteur ?
Oui, c'est grave. Non, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que nous, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on a été très inquiets de l'inflation. Eh bien, on est dans une situation diamétralement opposée en Chine. La Chine qui est soumise à des pressions déflationnistes, avec cet éclatement de bulles immobilières, si bien que tous les agents économiques qui sont exposés à l'immobilier sont aujourd'hui obligés de se désendetter. Hein. Donc tout le monde essaie de se désendetter. C'est le cas des promoteurs. Il y a à peu près la moitié des promoteurs qui ont fait faillite en Chine. Mais aussi on a les gouvernements locaux qui sont très endettés et qui comptaient beaucoup sur des recettes liées aux ventes de terrains, etc. Aujourd'hui, c'est un peu à l'arrêt. Donc ils sont obligés aussi de se désendetter. Et puis les ménages, il ne faut pas oublier que les ménages, même s'ils ne sont pas surendettés, à tout le moins, ils sont exposés à l'immobilier puisque à peu près 70% de leur patrimoine est investi en biens immobiliers. Et donc, du coup, ils ont le moral en berne. Et tout ceci, vous voyez que ça fait des pressions à la baisse hein, sur l'activité. Donc, une activité qui ne redémarre pas, comme on aurait pu l'espérer en Chine. Donc, ça, c'est les aspects de court terme, sachant que la purge de l'immobilier, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. Le Japon nous rappelle ça. On a eu des décennies après des bulles, d'éclatements de bulles. Donc, la purge peut être longue. Et on est sur, de toute façon, une tendance de long terme au ralentissement de l'activité en Chine, qui est de nature structurelle. C'est la fin de la période de rattrapage. Hein. C'est une économie qui a déjà eu sa période de rattrapage, qui demain doit fonder sa croissance sur davantage de gains de productivité, surtout dans un contexte de baisse hein, de sa population et donc de réduction de sa population active. Et on va avoir en plus une tertiarisation de l'économie. Tout ceci va dans le sens d'un ralentissement de nature structurelle de l'économie chinoise qui va moins être ce moteur de croissance au niveau mondial. Il faut le rappeler que la croissance mondiale pendant longtemps, enfin ce qui faisait la croissance mondiale à plus de 50%, c'était la dynamique chinoise. Donc on va moins avoir ce ressort de croissance ces prochaines années, mais probablement de manière plus structurelle.
Nathalie Janson, une réaction?
Oui, je pense que c'est intéressant ce qui se passe en Chine, parce qu'effectivement ça rappelle beaucoup aussi ce qui s'était passé au Japon, cette espèce d'ouverture au marché, et puis parce qu'effectivement la Chine, comme le Japon, comme beaucoup d'économies d'Asie, en fait, on tentait cet exercice délicat de mélanger le marché avec une forme d'autoritarisme. Et on voit qu'à un moment donné, en fait, ils arrivent au bout d'un modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas les faire cohabiter jusqu'au bout. Et moi, je trouve que ce qui pêche souvent, c'est quand on va arriver, parce que comme au Japon, en fait, vous voyez que la Chine, en fait, la bulle, c'est parce que les banques, en fait, ont financé à tout va, en fait, une croissance immobilière qui a exposé le pays à cette déflation. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de relais, puisqu'en fait, il n'y a pas de marché financier. Et le marché financier, ça ne prend pas en Chine, parce qu'on on les a arrêtés par autoritarisme. Au Japon, guère mieux. Et on s'aperçoit que finalement, si on n'a pas les deux dans le développement futur, eh bien, ça pêche. Et c'est pour ça que les États-Unis continuent de dominer.
Je rajouterai une dernière petite chose, parce que quel est le risque pour nous de ce ralentissement? Alors, ne serait-ce que, de ne pas avoir ce ressort de croissance au niveau mondial.
C'est juste la deuxième économie mondiale.
Voilà, donc c'est déjà, un manque de ressort, un ressort qui va faire défaut, et puis aussi le risque de voir les surcapacités chinoises se déverser sur les marchés européens, que ce soit en termes de, on parle beaucoup des véhicules électriques, des batteries ou des panneaux solaires, et donc d'exporter sa déflation au reste du monde.
La carte blanche de Sylvain Aurébi, c'est le Made in France, les difficultés du Made in France, Sylvain.
Oui, parce que c'est pas simple de produire en France. C'est très vertueux, mais c'est pas simple. Et j'écoutais ce matin le patron du Slip français.
Qui était invité de Good Morning Business.
Qui était invité de Laure Closier et Christophe Jacubizine.
Et très bien, vous avez de très bonnes habitudes le matin.
J'ai de très bonnes habitudes. En plus, je prépare mon émission, comme ça, au moins, je sais de quoi on va parler. J'écoutais Guillaume Gibault qui expliquait ses difficultés de fabriqué en France. La difficulté principale, c'est le prix. Et le Slip français vendait des produits à 40 euros et plus, qui ne se vendent pas suffisamment. Et donc, il a décidé de faire une très grosse commande, une très grosse production de ces slips pour baisser le prix. Et il baisse le prix d'un tiers jusqu'à la moitié selon les quantités que vous achetez.
Et là, ça a marché.
Je ne sais pas si ça marche. C'est-à-dire qu'il prend un risque énorme de commander 400 000 pièces alors qu'il en vend plutôt 10 ou 15 000.
Non, mais ils ont déjà baissé les prix et ça a marché. Donc, il s'est dit,
ils l'ont fait
sur des petites séries.
Sur une petite
40
série.
000. 40 000.
En précommande, en fait. Ouais. Hein, il l'avait tenté. Là, pour le coup, il commande lui-même. C'est lui qui va prendre le risque du stock.
Donc, il prend le risque.
C'est compliqué. Et juste pour dire que j'espère que ça va marcher. On le connaît parce qu'il était passé à la BFM Academy avec nous, Nicolas Dose, il y a une dizaine d'années. Et donc, il est courageux de produire en France. C'est difficile, le Made in France. Nous, on le fait. On produit nos thés près du Havre. On a rapatrié toute la production qui était au Maroc. Les boîtes étaient fabriquées en Chine à l'époque. Elles sont fabriquées en France aujourd'hui. On a fait cet effort. Alors, effectivement, en termes de coûts, c'est important. Mais on a la maîtrise de notre production. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer ce qu'on veut, quand on veut. On a la maîtrise du produit qu'on utilise, de la façon dont on le mélange, dont on le conditionne. Nos thés sont tous faits en France. C'est très important. Et il faut que, encore une fois, le gouvernement nous aide à produire en France. C'est pas simple. C'est beaucoup plus simple d'aller produire au Maroc, en Asie, n'importe où. Mais nous, on veut produire près de nos marchés. Et nos marchés sont en Europe. Donc, il faut produire en Europe.
La réalité, c'est aujourd'hui, que les consommateurs aiment le Made in France.
Oui, mais ils ne le payent pas.
Toujours.
Mais ils ne le payent pas. Pourquoi il est cher? Parce qu'encore une fois, on paye des impôts de production, on y revient, qui sont extrêmement coûteux, qui n'ont pas lieu d'être. Je veux bien qu'on taxe les sociétés quand elles font des profits, mais pas avant qu'elles aient engagé les premiers résultats.
Vous prêchez des convaincus.
Très important. Plateau. Donc, il faut pour des raisons de bilan carbone, il faut produire en France. Pour des raisons de souveraineté, il faut produire en France. Pour des raisons de qualité, il faut produire en France. Mais il faut que les gens sachent que c'est compliqué. Et que et nous, en plus, on est passé au bio en même temps qu'on est passé au Made in France. Donc, ça fait deux sujets difficiles. On le fait bien, on est heureux de le faire. Mais il faut que le gouvernement comprenne que l'économie française, elle ne peut pas soutenir des charges que les autres économies concurrentes, ne serait-ce qu'en Allemagne, n'ont pas. On paye plus d'impôts de production en France qu'en Allemagne. On a plus de bureaucratie en France qu'en Allemagne. On a moins de simplification, plus de normes. Il y a 400 000 normes en France pour 80 000 normes en Allemagne. C'est pas normal. Et donc, il faut absolument qu'on simplifie tout ça et qu'on favorise ce Made in France qu'on veut tous engager. Guillaume Gibault du Slip français comme Kousmiti, on est là pour produire en France. On est ravis de le faire, mais il faut nous aider à le faire.
Faut les écouter, c'est-à-dire on a tendance à taper sur les entreprises, on dit elles ont trop d'aide, etc. Il faut les retirer, etc.
Vrai.
Mais on voit bien que nos entrepreneurs, ils sont courageux, ils prennent des risques, et quand ils vous disent que c'est compliqué, faut peut-être les écouter.
On ne veut pas d'aide, hein. On veut qu'on arrête de nous faire peser
simplifier la vie.
Voilà,
les charges énormes, c'est tout. C'est pas d'aide, on ne cherche pas d'aide du tout.
Donc, j'ai bien compris, le Slip français va devenir mon prochain cas d'illustration d'élasticité prix.
Absolument, très bien, joli.
Merci beaucoup à tous les trois. Nathalie Janson, professeure à la Neoma Business School. Merci à Isabelle Djabbazi, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Et bravo pour ce brillant réquisitoire, Sylvain Aurébi, président d'Orientis. Vous l'avez compris, c'est le fabricant de la marque Kousmiti. Dans un instant, tout pour investir. Je vous retrouve demain à 9h. Très bonne journée.